On répète assez souvent, la Suisse ne connaîtrait sans doute pas un tel succès au plan économique sans son système de formation duale. Il nous vaut en tout cas pas mal d'éloges de la part de l'étranger. Et pourtant, l'apprentissage connaît aussi des ratés. La preuve, c'est que pour la deuxième année consécutive, l'offre en places d'apprentissage dépasse largement la demande, avec plus de 13 000 places annoncées vacantes en cette fin d'été. Une situation qui inquiète le monde économique. Certains patrons y voient même une menace pour la compétitivité de la Suisse. Alors, comment remédier à cette situation? On va en parler ce matin avec vous, Jacques-André Maire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller national socialiste neuchâtelois, vous présidez le groupe interparlementaire sur la formation professionnelle, mais également la conférence romande de la formation continue. Merci d'être avec nous ce matin depuis Locarno, vous séjournez ces jours-ci, pour le festival essentiellement, hein, c'est bien ça?
Oui, le festival et puis aujourd'hui et demain, la commission de la science, d'éducation et de la culture siégera à Locarno pour examiner des thèmes proches du cinéma, en particulier le projet de message sur la culture, l'aide au cinéma et puis bien entendu l'accord média qu'il s'agirait d'essayer de renégocier avec l'Union européenne.
Alors vous l'avez compris, Jacques-André Maire, c'est pas de culture mais d'apprentissage qu'on va parler ce matin. La question de l'apprentissage, elle revient de manière lancinante hein, ces temps-ci. On se souvient des propos de Johann Schneiderhamann, ils avaient fait pas mal parler d'eux, ou encore ceux de l'économiste Rudolf Stram, il vient de publier un livre sur ce thème, on l'a entendu il y a quelques minutes, on a lu aussi ses propos dans le Matin Dimanche hier. Au fond, toutes ces personnalités, elles disent la même chose, il faudrait privilégier les filières de l'apprentissage, limiter les cursus universitaires. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ?
Alors j'aimerais tout d'abord rappeler que la Constitution fédérale hein, précise depuis sa nouvelle version de 1999 que la formation professionnelle et la formation académique sont des formations de valeur égale mais de nature différente. C'est une belle déclaration. Malheureusement, on se rend compte que dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas, en particulier auprès des jeunes, auprès de leurs parents également, voire auprès des enseignants, des prescripteurs, comme on les appelle, hein, ceux qui peuvent influencer le choix des jeunes. La formation professionnelle souffre malheureusement encore et toujours d'un déficit d'image. Et dans ce sens-là, je pense que le problème est aujourd'hui beaucoup plus aigu qu'il y a quelques années, parce que nous sommes aujourd'hui face à un problème aussi de démographie. Il ne faut pas oublier que le taux de natalité depuis plusieurs années est très bas en Suisse. Par conséquent, nous avons des difficultés à renouveler les générations et ces problèmes de manque de personnes, de jeunes en formation professionnelle sont très liés à ces questions démographiques. Aujourd'hui, il y a une véritable concurrence qui s'est installée entre les filières académiques, les filières professionnelles, de par le manque de jeunes.
Le gymnase, l'université attire toujours plus les jeunes. Est-ce que c'est vrai que la Suisse est en train de tomber dans le piège de l'académisation, pour reprendre le titre du livre de Rudolf Stram ?
Non, alors je crois pas du tout. La Suisse reste à un taux de maturité académique ou gymnasiale très bas par rapport aux autres pays qui l'entourent. Donc c'est pas tellement de ce côté-là qu'il y a un problème. C'est plutôt dans l'attractivité de la formation professionnelle qu'il faut travailler. Il y a de gros efforts à faire. Ils se font déjà en partie, mais je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut absolument être plus actif pour attirer plus de jeunes dans les formations professionnelles. Ces formations qui se sont considérablement renouvelées depuis la nouvelle loi sur la formation professionnelle qui est en vigueur maintenant depuis 10 ans. Il y a des possibilités très très larges. On a aujourd'hui plus de 230 possibilités de préparer un CFC en Suisse. Si on ajoute les attestations de formation professionnelle, on arrive à environ 300 métiers que l'on peut acquérir en formation professionnelle. Puis surtout, j'aimerais insister là-dessus, la formation professionnelle est aujourd'hui un système complètement ouvert vers la formation professionnelle supérieure, vers les hautes écoles spécialisées, c'est-à-dire vers tout le secteur de la recherche, de l'innovation. Donc, pour des jeunes talents, et c'est bien là, je crois qu'il y a aujourd'hui un problème, les jeunes talents vont naturellement vers les filières gymnasiales, et c'est précisément ces jeunes talents qu'il s'agirait aussi de pouvoir attirer en formation professionnelle, sans bien entendu négliger la mission de la formation professionnelle, qui est d'offrir des possibilités de formation à tous les jeunes de notre pays.
Ah, vous avez dit, hein, Jacques-André Maire, qu'il y a, voilà, il y a ce problème de la démographie scolaire déclinante, mais il y a aussi un problème évidemment d'image. L'apprentissage, il passe évidemment encore aux yeux de plusieurs parents comme pour une formation réservée aux mauvais élèves. Comment est-ce qu'on peut concrètement changer l'image de ces filières ?
Alors, je crois qu'il faut faire de très gros efforts, comme je laisse entendre tout à l'heure, auprès des prescripteurs, tout d'abord, c'est-à-dire des parents, qui ont, c'est vrai, vous l'avez dit, une image un peu éculée de la formation professionnelle. Hein. Il faut aujourd'hui vraiment informer toujours mieux ses parents, via les médias, via les salons des métiers, par exemple. Également, mieux informer les enseignants. Faut pas oublier que les enseignants, où je mets également dans les prescripteurs les conseillers en orientation, sont des personnes qui, pour la plupart, pratiquement la totalité, ont passé par la voie de formation académique, donc ne connaissent pas de l'intérieur la formation professionnelle. Par conséquent, il y a là de gros efforts d'information, de sensibilisation à faire auprès de ces prescripteurs. Et puis, bien sûr, auprès des jeunes, il faut que la formation professionnelle puisse montrer sa variété, sa diversité, sa qualité également, puis surtout montre les possibilités de carrière que l'on peut réaliser par la formation professionnelle. Je parlais d'un système ouvert tout à l'heure, on peut parler aussi d'un système d'excellence. Et en septembre, d'ailleurs, à Berne aura lieu le concours national des métiers où plus de 80 professions vont disputer des compétitions pour montrer quels sont les meilleurs talents dans ce pays, dans les différents métiers. Je crois que c'est des efforts très importants pour montrer que la formation professionnelle aujourd'hui est une formation tout à fait de valeur équivalente, égale, comme on le dit dans la Constitution, avec les autres voies de formation. Il s'agit pas, et là je crois qu'il faut éviter un piège, il s'agit pas de jouer une formation contre l'autre. Notre pays a besoin de l'ensemble de ses formations, mais il s'agit de clairement mieux valoriser la formation professionnelle, lui donner vraiment une image plus positive pour qu'elle soit réellement considérée à part égale au moment des choix que font les jeunes. Et là, l'orientation professionnelle joue un rôle majeur et je pense qu'il y a là vraiment un effort à faire pour que les conseillers, et ça se fait déjà, hein, mais ça pourrait se faire encore mieux, je crois, les conseillers en formation professionnelle en formation de façon générale, mais en formation professionnelle en particulier, puisse montrer cette valeur de la formation.
À Genève, il y a seulement 5% des jeunes qui s'orientent vers l'apprentissage au terme de leur scolarité obligatoire. Ça, c'est la faute pour vous, aux conseillers en orientation. Ils ne connaissent pas assez la réalité du terrain.
Alors, c'est pas seulement les conseillers, hein. Je parlais de l'ensemble des prescripteurs. Il y a aussi, je crois, auprès des parents, de la société en général, un déficit d'image. Et là, il y a de très gros efforts de communication à faire. Et, par exemple, dans le canton de Neuchâtel, d'où je viens, il y a quelques années, nous avions imposé, alors bon, la forme n'était peut-être pas idéale, mais nous avions imposé à l'ensemble des enseignants de l'école obligatoire des visites d'entreprise pour aller montrer ce que font les entreprises dans notre canton, pour montrer aussi que ce n'est plus l'image de l'entreprise qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans, qu'aujourd'hui on fait de l'innovation, on fait du haut de gamme, on fait des choses vraiment très passionnantes dans les métiers de l'industrie, pour essayer de sensibiliser les enseignants. Et puis bien entendu les parents, je parlais des salons des métiers, je crois que c'est quelque chose de très important, pour montrer là aussi tout ce qu'on peut faire dans ce domaine. Mais j'aimerais insister encore sur un autre point. Je crois que la question, elle se joue même avant l'âge de l'orientation. Et aujourd'hui, dans plusieurs cantons, on a entrepris également des actions de sensibilisation auprès des tout jeunes, auprès des élèves de l'école primaire. Par exemple, on organise des ateliers scientifiques, des ateliers qui sont à la fois ludiques, mais qui montrent l'intérêt des métiers techniques pour relever les défis de notre société, ces défis à venir, que ce soit en matière d'environnement, d'énergie, de santé, etc. Eh bien là, je crois qu'on peut travailler déjà auprès d'enfants tout jeunes pour leur dire, ben voilà, les possibilités qu'il y aurait d'entrer dans des métiers vraiment passionnants, des métiers de découverte. Et là, je crois que cette image peut petit à petit évoluer. Mais c'est un ensemble d'efforts qu'il faut faire sur le long terme, c'est clair.
Jacques-André Maire, vous parlez sensibilisation, communication, éducation, mais est-ce qu'on peut aussi envisager d'augmenter globalement les salaires des apprentis pour rendre la filière plus attractive ?
Alors, dans certains secteurs, c'est peut-être un problème, mais je crois qu'aujourd'hui, le salaire en tant que tel n'est pas forcément rédhibitoire. Il y a quelques secteurs, c'est vrai, où il faut faire de grands efforts, mais globalement, je dirais que le salaire qui est progressif aussi au cours de l'apprentissage est correct. En général, le jeune, il trouve à peu près son compte. Simplement, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser. C'est vrai que pour un jeune de 15 ans, qui sort du rythme scolaire, scolaire, avec 12 à 13 semaines de vacances, avec des horaires de 25 à 30 périodes, et qui arrivent du jour au lendemain, hein, au mois d'août, c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, des milliers de jeunes entrent en apprentissage, entrent dans le monde du travail, et vont se retrouver avec des horaires de 40 à 42 heures, voire plus dans certains secteurs, si je pense par exemple à la paysannerie ou à la construction, selon les saisons. Et puis, 5 semaines de vacances et un rythme de travail aussi très différent de celui de l'école, c'est peut-être là qu'il faudrait travailler sur des formules permettant d'adoucir quelque peu le passage. Là, il faut peut-être qu'on réfléchisse. Et puis le salaire, c'est vrai, le salaire doit être décent, mais il faut pas non plus en faire, je crois, un thème unique. C'est un ensemble de problèmes qu'il faudrait aborder.
On reproche souvent aux entreprises ou à certaines entreprises de ne pas assez encourager l'apprentissage. On sait qu'il y a des secteurs qui ont longtemps préféré recourir à la main-d'œuvre étrangère plutôt que de former des apprentis. Est-ce que vous avez le sentiment, comme Rudolf Stramm, que le vote du 9 février, de ce point de vue-là, pourrait avoir des conséquences positives et contraindre les entreprises à encourager davantage l'apprentissage ?
Alors, j'irai pas jusqu'à dire que le vote du 9 février peut avoir des conséquences positives. Mais par contre, il est vrai que ce vote nous pose devant une nouvelle situation, celle de devoir renoncer en partie du moins à l'importation de main-d'œuvre qualifiée. Je rappelle juste ici que dans les domaines, par exemple, de la les domaines MINS, comme on les appelle, la mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques, ainsi que la santé, on avait ces dernières années des importations de d'œuvres qualifiées à hauteur d'environ 30 000 personnes par année, donc c'est considérable. Par conséquent, si nous devons renoncer à ce bassin de main d'œuvre qualifiée, eh bien, il faut bien évidemment faire plus d'efforts pour qualifier les jeunes de notre pays, mais également les adultes. Et là, j'aimerais insister, il y a aujourd'hui dans notre pays plus de 400 000 personnes actives dans le monde du travail qui n'ont pas de formation de niveau CFC. Ces personnes sont les plus fragiles en cas de ralentissement économique, en cas de crise, etc. Donc il y a un gros effort à faire pour donner la possibilité à ces personnes de se qualifier, d'avoir un CFC au moins, voire plus. Il faut aussi favoriser la formation professionnelle supérieure. Et puis, bien entendu, dans la formation des adultes, je n'oublie pas un bassin de recrutement très important, c'est celui des femmes, en particulier les femmes qui ont interrompu une carrière professionnelle, voire une formation parfois, pour se consacrer à leur tâche familiale. Et là, il faut que nous favorisions le retour vers la formation, vers le monde du travail. Personnellement, j'ai déposé une motion à la session en juin pour essayer de favoriser ces retours. Je crois que c'est très important pour essayer d'amener plus de personnes résidentes dans le pays vers le monde du travail. Mais ça ne suffira pas. Je crois qu'il faut être vraiment conscient des réalités. Nous devrons continuer à importer de la main-d'œuvre qualifiée, en particulier en raison du problème démographique que je soulignais au début de l'émission.
Justement, il y a une idée qui est dans l'air, hein, c'est celle d'importer aussi des apprentis. Est-ce qu'on pourrait, Jacques-André Maire, envisager de proposer à des étrangers d'intégrer les filières réputées peu attractives, notamment dans l'agriculture, la construction? Il y a quelques mois, on a parlé par exemple de contingents de jeunes gens d'Afrique du Nord. Ça vous parle, ça ?
Alors effectivement, ça se pratique d'ailleurs déjà dans les cantons frontaliers. Je suis actuellement au Tessin, je discutais avec un ancien collègue du Tessin qui me disait qu'au Tessin, par exemple, les apprentis frontaliers sont en nombre relativement important. Mais de façon plus générale, et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'avoir recours à des apprentis étrangers. Il faut être très prudent parce qu'il faut en aucun cas que ces jeunes viennent occuper des places que les jeunes suisses pourraient occuper. Par conséquent, il faudrait travailler, si nous allions dans le sens de ce projet, avec les associations professionnelles, des employeurs, pour que l'on cible vraiment sur les métiers où on a de façon chronique un manque d'apprentis. Il faudrait d'abord faire tous les efforts possibles pour attirer les jeunes Suisses dans ces voies de formation, mais également à ce moment-là, on pourrait s'ouvrir, c'est vrai, à cette manœuvre. Simplement, avec le 9 février, bien entendu, on va buter sur un obstacle majeur, c'est celui des contingents, des quotas, et par conséquent, je crois que c'est un projet qui a malheureusement pris un gros coup de frein suite au 9 février.
Jacques-André Maire, on va feuilleter tout de suite la presse du jour. Elle évoque notamment Locarno. Vous vous trouvez aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, hein, Locarno, c'est un rendez-vous du cinéma, mais aussi de la politique suisse, avec par exemple le troisième volet de la trilogie du cinéaste suisse Fernand Melgar consacré à l'asile. Alexandre Abbé.
Bonjour.
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 Oui, oui, effectivement. Donc après la forteresse en 2009, vol spécial en 2011, et puis l'invective. On s'en souvient du président du jury à l'époque qui avait qualifié l'œuvre de fasciste. Fernand Melgar a présenté hier L'Abri. Dans ce film, il s'éloigne du domaine de l'asile pour entrer dans celui de la précarité des migrants. Avec ses personnages marquants, par exemple le responsable d'un abri PC, un vaudois d'une espèce qu'on croyait disparue, incarnation tonitruante du « y en a point comme nous », écrit le critique cinéma du temps. Mais ce fonctionnaire n'est pas un salaud, précise Antoine Duplan, car le cinéma de Melgar ne comporte ni bon, ni méchant, ni salaud, ni gentil, juste des êtres humains qui essaient de vivre ensemble. Le cinéaste suit cette famille rome, par exemple, qui dort dans la voiture et mendie devant la gare. Ce couple espagnol qui a tout perdu dans son pays et tente sa chance dans les stations d'hiver, mais ne résiste pas à l'épreuve. Melgar ne propose ni analyse ni solution, c'est un simple témoin de son temps, la mauvaise conscience d'une Suisse qu'il défend. Ce pays a un formidable pouvoir d'autocritique, dit-il, qui permet de faire évoluer les choses.
Jacques-André Maire, vous avez vu L'Abri, le film de Fernand Melgar ?
Oui, alors je l'ai vu et j'en suis sorti assez bouleversé, je dois dire, comme après chacun des autres films de Fernand Melgar. Mais là, c'est vrai qu'au niveau de l'émotion, c'est très fort. On a des situations qui sont absolument dramatiques. J'ai beaucoup apprécié la façon dont Melgar filme cela, parce qu'effectivement, il y a quand même un certain recul et on est amené à se poser des questions au-delà, je dirais, de l'attitude des personnes qui sont amenées à gérer des situations impossibles lorsque L'Abri ne peut accueillir que 50 personnes, puis qu'il y en a 70 qui se présentent. Quels sont les critères de choix? Et on voit là des personnes qui doivent choisir et qui immanquablement tombent dans l'arbitraire. Et ces personnes expriment dans le film d'ailleurs leur malaise face à cela. Eh bien, je crois qu'il faut aller au-delà, puis se poser la question quand même de nos bases légales. Ces bases légales qui n'ont cessé d'être durcies ces dernières années. Et aujourd'hui, eh bien, on a des fonctionnaires, du personnel qui est condamné à appliquer ces bases légales. Et on reporte quelque part le problème de conscience sur ces personnes plutôt que de le garder chez nous. Je crois que personnellement, ça m'interpelle aussi sur la façon dont nous pourrions essayer de faire évoluer ce cadre légal.
On va rester dans le débat sur l'asile. Alexandre Abel, concept de préférence religieuse s'invite justement dans ce débat.
La presse revient sur l'idée défendue au sein de l'UDC d'accueillir en priorité les chrétiens. Dans le temps ce matin, le conseiller national UDC Eric von Siebenthal demande que la Suisse, dans sa politique d'asile, traite avec plus de considération les minorités chrétiennes menacées. Alors les musulmans ont-ils moins de valeur, par exemple, lui demande le temps. Il ne faut pas cesser de les accueillir s'ils sont en danger de mort, répond l'élu, qui avance aussi des arguments culturels. Les musulmans ont plus de difficultés à s'intégrer, affirme-t-il. Alors, autre question, cette proposition irait-elle à l'encontre des conventions de Genève, qui interdit ce type de discrimination? Explication confuse du parlementaire, la Suisse a une tradition d'asile et elle prend son devoir au sérieux, mais l'islam progresse et nous devons prendre en compte cette évolution.
Jacques-André Maire, ce concept de préférence religieuse, il vous semble fumeux ou bien séduisant ?
Alors j'aimerais tout d'abord dire que je suis extrêmement préoccupé, choqué par la situation des chrétiens en Irak. C'est dramatique, c'est vrai. Et dans ce sens-là, je peux comprendre que mon collègue von Siebenthal soit touché et ait envie de faire quelque chose pour ces réfugiés-là. Mais ce ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, il y a des réfugiés dans le monde entier. Ils sont de toute religion, de toute culture. Et je crois que la mission de notre pays, c'est de retrouver cette tradition d'accueil vis-à-vis de l'ensemble des réfugiés. Et ce serait pour moi alors une voie complètement fausse de partir vers une sorte de discrimination positive à l'égard des chrétiens. Je crois que c'est vraiment l'accueil généralisé qui doit être pratiqué par la Suisse sans discrimination et bien entendu avec des critères alors par rapport aux conditions d'accueil, mais ces critères doivent être les mêmes pour toutes les populations.
Tout autre sujet maintenant, Patrick Chaboudet, pro-Helvetia, qui veut ouvrir, comme prévu, son antenne à Moscou, selon le Blick.
Oui, le durcissement des sanctions européennes et américaines contre la Russie place la Suisse dans une position délicate. À Bruxelles, certains critiquent même la position passive de la Suisse. Et voilà qu'en dépit de ce contexte international, la fondation pro-Helvetia maintient ses plans d'ouvrir une antenne à Moscou, ce serait début 2016, et veut développer les liens culturels avec la Russie avec un budget de 500 000 francs. Un projet qui suscite des critiques, nous dit l'oblique du conseiller national UDC, Christophe Morgueli, par exemple. En pleine crise ukrainienne, il faut absolument suspendre ce projet, dit-il. Au contraire, estime-t-on à Pro-Helvetia, les échanges culturels permettent de maintenir un dialogue ouvert et doivent être soutenus.
Jacques-André Meyer, cette position Pro-Helvetia, vous la comprenez? Vous avez l'impression qu'il peut y avoir une forme d'exception culturelle dans ce régime de cette politique des sanctions qui est menée aujourd'hui à l'égard de la Russie?
Alors je comprends bien la position de Pro-Helvetia parce que je suis convaincu personnellement que la culture est un vecteur très important pour lutter contre les totalitarismes, pour lutter contre les pouvoirs excessifs, et dans ce sens-là, la culture garde vraiment un rôle majeur. Et c'est vrai, la Suisse est aujourd'hui dans une situation difficile vis-à-vis de la Russie. Didier Burkhalter a fait de remarquables efforts en tant que président de l'OSCE pour essayer de trouver des solutions de paix. Il continue à se battre sur ce terrain. Dans ce sens-là, je peux comprendre que la Suisse n'ait pas emboîté le pas immédiatement avec le régime des sanctions, parce que il faut garder des portes ouvertes pour la négociation via l'OSCE. Et tant que ces portes sont ouvertes, je comprends qu'on ait une certaine réserve vis-à-vis des sanctions. Et puis encore une fois, alors au niveau culturel, pour moi, la culture reste vraiment un vecteur très important pour la promotion de la paix dans le monde.
Et puis on termine tout de suite avec l'aviation américaine qui a renforcé ses bombardements contre les positions des extrémistes sunnites dans le nord de l'Irak. Patrick Chaboudet.
Oui, cela a permis de stopper la progression des milices de l'État islamique en Irak, de regonfler aussi le moral des Peshmerga, les combattants kurdes. Mais quel est l'objectif, quelle est la stratégie de Barack Obama, se demande la NZZ. La campagne brutale d'assassinat menée contre les chrétiens s'apparente à un génocide et ne rien faire pour l'empêcher aurait été cynique. Mais Washington a aussi intérêt à soutenir les Kurdes. Le maintien de leur semi-indépendance dans le nord de l'Irak est dans l'intérêt des États-Unis. C'est de loin la région irakienne qui s'apparente le plus à une forme d'État moderne et libéral.
Quelle est la stratégie de Barack Obama? Ça, c'est une question intéressante. Jacques-André Meyer, d'ailleurs, beaucoup se la posent aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure les critiques formulées par Hillary Clinton à l'égard du président. Une stratégie un peu inexistante qui se résume finalement à ce slogan, ne pas faire de choses idiotes. Vous avez l'impression, vous aussi, que Barack Obama, c'est un peu un poulet sans tête qui n'a pas de stratégie?
Ouh, alors, j'aurais pas la prétention de porter un jugement sur l'attitude de Barack Obama. J'aimerais rester modeste dans ce dossier-là. Moi, j'ai compris dans un premier temps qu'il y avait une volonté de mettre fin à cette hégémonie du djihad qui est en train de prendre possession du pays, d'imposer quelque part une dictature religieuse. Et dans ce sens-là, j'ai bien compris cette intervention. Maintenant, c'est vrai, à la réflexion, on se rend compte qu'il y a certainement d'autres intérêts pour les États-Unis. Alors ceux-là, très honnêtement, m'échappent au niveau géopolitique international. C'est vraiment pas ce matin que je me sens la liberté de donner là des conseils ou des critiques par rapport à ces choix américains. Il faut suivre la situation. Je crois qu'il faut voir dans quel domaine les États-Unis pourront apporter quelque chose de bien. Mais c'est vrai qu'on peut craindre aussi qu'ils utilisent finalement cette situation pour promouvoir d'autres intérêts qui sont peut-être nettement moins louable.
On vous remercie, Jacques-André Meyer, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes conseiller national socialiste neuchâtelois, président du groupe interparlementaire sur la formation professionnelle. Vous étiez avec nous en duplex de Locarno pour évoquer notamment la question de l'apprentissage. Merci et très bonne journée à vous.
Merci, bonne journée aussi.